Chapitre 2 Le gagnant du concours. C'était le 1er mai qu'Ursenström avait publié le programme de son fameux concours. Les concurrents avaient devant eux une année entière pour élaborer et mettre au point leurs plans et devis. Goël Mordax s'était mis au travail dès les premiers jours. Il avait demandé un congé au directeur de la compagnie où il était ingénieur, et depuis ce moment, il vivait cloîtré dans sa chambre. Le concierge lui montait ses repas chaque jour à heure fixe. Goël consacrait quelques minutes à peine à se restaurer. Puis il reprenait sa tâche, recommençant 20 fois ses calculs, couvrant son tableau noir de formules algébriques, entassant épure sur épure. Bien souvent, il lui fallait refaire tout ce qu'il avait si péniblement échafaudé. Un petit détail qui lui avait échappé lui sautait aux yeux. Il fallait envisager la question sous un autre aspect. Courageusement, il continuait à chercher avec tout l'intérêt de sa race. « Oh, je réussirai !» se répétait-il. Il se replongeait fiévreusement dans ses calculs, passant des nuits entières sans prendre de repos. Il ne voyait personne. Sa porte était rigoureusement consignée, exception faite toutefois pour M. Lepic. Celui-ci, depuis que la belle saison était passée, avait suspendu ses promenades à la campagne. On ne le rencontrait plus maintenant que chargé de bouquins de toutes dimensions, les poches bourrées de papiers couverts de notes, qu'il oubliait d'ailleurs étourdiment un peu partout. Il venait fréquemment chez Goël Mordax à la suite nuit tombante, et quelquefois il partageait le modeste repas de l'ingénieur. Il s'évertuait à distraire celui-ci en lui racontant tous les petits potins qu'il avait pu recueillir. Entre-temps, il commettait quelques maladresses pour n'en pas perdre l'habitude, sans doute. « Tu sais, dit un jour M. Lepic, les projets et les plans arrivent chez Jacques et Ursenström. Vraiment ?» « Oui, oh, une des pièces de l'hôtel Storheim en est remplie. Je le tiens du fameux cocardo. »« Dis-tu cela pour me décourager ?»« Oh, loin de moi cette pensée !» répliqua le naturaliste en s'asseyant négligemment sur une réduction en bois du sous-marin qui s'écrasa avec un craquement sinistre. « Oh, mon Dieu ! Oh, ne te désole pas. C'est une vieille maquette. Il n'y a pas grand mal, heureusement. » Une autre fois, M. Lepic arriva le visage rayonnant. « Tu ne sais pas ?» dit-il à Goël. « Non, pas encore. »« Eh bien, je viens de voir Tony Fowler. »« Ben, il n'y a rien d'étonnant à cela. »« Si, il sortait de Ursenström. Il avait l'air furieux. »« Que veux-tu que cela me fasse ?»« Mais tu comprends donc pas qu'il a été éconduit, comme tous ceux d'ailleurs qui se sont présentés chez le Norvégien, et ils sont légions. » Mais quel intérêt a donc Ursenström à ne recevoir personne? D'intérêt, il n'en a pas, c'est un original. Il passe la moitié de son temps à bord de son yacht, l'étoile polaire. Quand il est à terre, il s'enferme chez lui. Il a sans doute beaucoup d'occupations. Oui, son courrier, l'organisation des ventes de charité, la construction de lignes de chemin de fer, la fondation d'œuvres de bienfaisance, que sais-je, lui donne presque autant de travail qu'à moi une larve de Monodontorhynchus, de Meloé ou de Sidaris. Goël ne put s'empêcher de sourire. « Bon, dit-il, je comprends la manière d'agir d'Ursenström. Mais sa fille ne s'en occupe donc pas. « Mon Dieu, que tu es naïf !» s'exclama M. Lepic en levant les bras au ciel, ce qui eut pour résultat de casser une des ampoules de la suspension. « Edda Ström est comme son père, un véritable ours. Elle ne reçoit non plus jamais personne et ne sort qu'accompagnée d'une jeune fille de son âge, Mademoiselle Hélène Segui. Tiens, tu sais son nom ? Oh, une délicieuse brune !» Ben c'est encore Cocardo qui m'a appris cela. Pour le récompenser, je lui ai communiqué une recette de cuisine. Tu es donc cuisinier, toi aussi? Pourquoi pas? Mais oui, mon cher, à la manière d'accommoder les larves de cerf-volant à la chinoise, Lucullus s'en lécherait les doigts. Oui, mais Lucullus est mort. Mais tant pis pour lui, et tant mieux pour nous. Cependant, Goël commençait à recueillir les fruits de son labeur acharné. Ses plans et ses devis prenaient une excellente tournure. Encore quelques jours, puis une révision complète de l'ensemble, et il pourrait enfin se reposer. Une quinzaine s'écoula. On était au 30 mai. La campagne se couvrait de verdure. À la grande joie de Monsieur Lepic, les insectes commençaient à sortir de terre. Ce matin-là, il vint trouver Goël. Eh bien, grand homme, où en sommes-nous? Bien, j'ai fini et je suis très content. Mais dans quel état de délabrement physique! Je dors plus, je ne mange plus, j'ai des maux de yeux. Ah, j'ai besoin d'un calme absolu. Mon pauvre ami, fit Monsieur Lepic, je vais te faire une proposition. J'ai loué à Andoum une petite bastide assez confortable où j'ai transporté ma ménagerie. Il y a une chambre au premier. Et pourquoi ce déménagement? Oh, des difficultés avec mon propriétaire. Oh, à propos de rien, du reste. Au fond, je crois qu'il a peur des scorpions. Ah, je comprends ça. Donc, je t'emmène. Tu respires le bon air, tu manges bien, tu dors mieux, tu chasses avec moi les insectes et tu reviens à Marseille, solide comme un chêne. Bien entendu, et merci, mon beau vieux. Goël empaqueta ses plans, non sans une certaine émotion. Les deux amis allèrent les déposer dans l'immeuble, l'immense boîte aux lettres disposée à cet effet, à la porte d'Hôtel Ström. Oh, ce ne fut pas sans peine qu'ils y réussirent. L'hôtel était littéralement assiégé par la foule des concurrents. Tout ce qu'il y avait au monde, d'utopistes, de rêveurs, de fous même, était accouru à Marseille. Chaque jour, de nouveaux inventeurs semblaient sortir de terre. On voyait des Allemands au crâne chauve, au menton volontaire, les yeux abrités par de grosses lunettes, les poches gonflées de papier. Des Anglais, graves et compassés, aux gestes d'automates. Des Italiens, insinuants, au verbe mielleux. Des Espagnols exubérants, des Hollandais et des Belges indolents, accompagnés de leurs femmes et traînant avec eux une ribambelle d'enfants, des Russes aux regards illuminés, des Américains aux manières rudes qui bousculaient tout le monde pour arriver plus vite, et même des Japonais, hauts comme des poupées, qui se glissaient souriant dans la foule avec des clignotements continuels de leurs petits yeux bridés. Il y en avait de bornes, il y en avait de bossus, de manchots, des gros, des grands, des petits, des maigres. Les uns avaient des plans tellement lourds qu'ils se faisaient accompagner d'un portefeuille, et d'autres les traînaient dans des voitures à bras. Marseille était littéralement envahie par la foule des inventeurs, des illuminés, des détraqués de l'univers entier. Goël Bordax et Monsieur Lepic, ahuris par la cohue, s'éloignèrent précipitamment. Oh, ils avaient hâte d'être seuls. Ils jetèrent un dernier coup d'œil sur cette foule de gens affairés et effarés, et ils gagnèrent le joli visage d'Andoum. L'ingénieur et le naturaliste, chassant et pêchant, parcourant la campagne en tous sens, vivaient sans aucun souci, comme s'ils se fussent trouvés à 100 lieues de Marseille. Brusquement, un matin, le vendeur de journaux de la localité les croisa comme ils partaient en excursion. Il criait à tue-tête: Le concours des sous-marins! Décision du jury! Monsieur Lepic acheta un journal. En dépit de la manchette énorme, le quotidien ne contenait que la courte information suivante: Le nom du vainqueur du concours sera proclamé ce soir à 6 heures. Ben, retournons à Marseille, dit Monsieur Lepic. Sans perdre un instant, ajoutait avec agitation Goël Mordax. La promenade fut ajournée. Ils employèrent la matinée à ranger tout leur attirail et se rendirent à Marseille. Ils furent étonnés de rencontrer sur leur route de nombreux passants qui se hâtaient en bande vers la ville. Cependant, une foule plus considérable s'écrasait devant l'hôtel d'Ursenström, réclamant le nom du vainqueur sur l'air des lampions. Il avait fallu protéger la demeure du philanthrope par un fort détachement de cavalerie, et toute la police avait été mobilisée pour contenir cette foule turbulente qui menaçait à tout moment d'envahir l'hôtel. Enfin, sur le large balcon, un vieux savant à barbe blanche apparut, entouré de messieurs en habits noirs et décorés. Il tenait un papier à la main. Il y eut un grand mouvement dans la foule, puis un silence religieux se fit soudain. Le vieillard fit un geste et proclama d'une voix cassée, mais que chacun entendit distinctement, « Le vainqueur du concours ouvert par M. Ursenström est l'ingénieur français Gaulle-Mordax. » À peine eut-il prononcé ce nom qu'une véritable explosion de cris éclata. « Vive Gaulle-Mordax! Vive Mordax! Vive Gaulle! Vive la République! Vive Gaulle-Mordax! Vive la France !» Et une voix cria « Allez, à la maison de l'ingénieur !»« c'est cela !» répondit-on de toutes parts. « Oh, c'est inutile !» cria quelqu'un qui venait de reconnaître Goël. Immédiatement, la foule entoura l'ingénieur, qui, sous le coup de la violente émotion qu'il venait d'éprouver, se disposait à rentrer chez lui en compagnie de M. Lepic. En dépit de leur résistance, les deux amis furent hissés sur les épaules des enthousiastes et portés en triomphe au bruit de mille acclamations. Goël, qui sentait bien le côté ridicule de cette manifestation, se sentait pourtant très touché et très heureux. Quant à M. Lepic, il jubilait. Sa boîte verte en bandoulière, il se redressait et souriait à la foule en s'efforçant de donner à sa physionomie une expression de noblesse et de dignité. Beaucoup de gens le prenaient pour Goël. Ben, « cela a du bon d'être l'ami d'un grand homme », songeait-il. Un tournant de rue, un remous de foule se produisit. Il y eut une bousculade. Goël et son ami en profitèrent pour sauter à bas des épaules de leur porteur et pour gagner une petite rue déserte. Là, ils se séparèrent. Goël pour retourner chez lui, M. Lepic pour aller, en vrai badaud qu'il était, suivre une retraite au flambeau improvisée en honneur du champion français par le délire patriotique de la foule. Une fois rentré dans son humble logis de travailleurs, Goël s'absorba dans ses pensées. En dépit de l'évidence, il pouvait à peine croire au foudroyant succès qu'il venait de remporter. Une sorte de vertige s'emparait de lui. Il était anéanti, hébété, abasourdi. La richesse, la science, la gloire et peut-être l'amour, il avait conquis tout cela. C'était en son honneur que retentissait la clameur des chants et des vivats parmi la ville illuminée et pavoisée. En proie à une surexcitation fébrile, il ne put ni manger ni dormir. Vers minuit, il se rhabilla et descendit. Une promenade au frais le long des quais calmerait ses nerfs. Il allait rentrer chez après avoir déambulé pendant une heure, lorsque, à quelque distance de lui, il aperçut un promeneur dont les gestes saccadés révélaient une violente agitation. Goël se rapprocha. L'inconnu se penchait au-dessus de l'eau comme pour prendre son élan. Goël hâta le pas et s'élança juste à temps pour saisir le désespéré à bras-le-corps. Une courte lutte s'ensuivit. « Goël Mordax, Tony Fowler !» Oh, les deux exclamations étaient parties en même temps. En reconnaissant celui qui venait de le sauver, le Yankee avait poussé un cri de rage. « Ah, c'est vous !» s'écria-t-il brutalement. « Oh, je vous trouverai donc toujours sur mon chemin, Mais de quel droit venez-vous m'empêcher de me tuer ?»« Silence !» dit sévèrement Goël. « Vous me remercierez plus tard de vous avoir empêché de vous abandonner à votre désespoir. Mais ne suis-je pas votre ami ?»« Mon ami, allons donc. Mon ennemi le plus cruel, celui qui m'a ravi le prix de mes efforts. Savez-vous que sans vous, je sortais vainqueur du concours ? Et je suis classé immédiatement après vous. 10 ingénieurs des ateliers de mon père avaient peiné toute une année pour élaborer un plan de sous-marin presque parfait. Oh, je me croyais si sûr de vaincre. Je comptais sur la gloire du triomphe, sur le dot de la richissime et de l'adorable Eddard. Tenez, je vous déteste. » Goël l'écoutait, abasourdi et indigné. « Mais vous êtes injuste et jaloux, dit-il. Le dépit et la colère vous égarent. Vous vous repentirez de la sottise que vous venez de commettre en m'arrachant la mort, s'écria le Yankee avec rage. Adieu. Vous aurez d'ici peu de mes nouvelles. » Avant que Goël eût eu le temps de revenir de sa surprise et de courir après lui, Tony Fowler s'était perdu dans les ruelles obscures du vieux port. Goël regagna son logis tout songeur. Une ombre obscurcissait déjà la joie de son triomphe.